À compter de vendredi 26 avril, Radio-Canada Audio proposera un nouveau balado de Julien Morissette qu'on entendait dans ce petit extrait, intitulé « Turbulence, traverser les troubles anxieux », produit par Transistor Media, balado qui sera lancé dans le cadre du Festival Transistor qui prend son envol très bientôt, le 24 avril. Et j'accueille avec grand plaisir au bout du fil Julien Morissette, cofondateur, directeur artistique de Transistor Media et animateur, scénariste, réalisateur de Turbulence. Bonjour Julien.
Bonjour Hélène.
Julien, vous êtes à la tête de Transistor Media depuis maintenant 8 ans. Le festival existe depuis 8 ans en Outaouais et vous décrivez ce festival comme une sorte de camp de vacances du podcast. C'est toujours bon.
Oui. Exactement. Non, c'est vrai. Je suis d'accord avec cette affirmation. Bon. C'est quelque chose qu'on propose aux éditrices, éditeurs, mais aussi aux productrices, producteurs, aux artisans. Les gens se retrouvent en Outaouais pendant 3-4 jours pour écouter du balado, réfléchir à l'avenir du balado et aussi juste pour se rencontrer tout simplement et avoir du plaisir.
Bien, c'est parfait. On sera, en tout cas, on invite les gens à s'y rendre, à y participer. On parlera un peu plus longuement de la programmation vers la fin de cette entrevue, mais d'abord et avant tout, là, on va focaliser sur Turbulence, votre balado. Est-ce que c'est votre balado le plus personnel que vous ayez fait jusqu'à maintenant, Julien?
Tout à fait. Ça fait 6 ans que je travaille à ce projet-là. Et honnêtement, depuis que je fais du balado, là, ça fait presque 10 ans, ça a toujours été le projet que j'ai voulu faire, parler de mes troubles anxieux. Mais je voulais attendre d'avoir assez d'expérience et assez de recul sur la situation. C'est un projet qui a mûri longtemps et pour lequel j'ai fait beaucoup de cueillettes sur le terrain, que ce soit auprès d'amis, de professionnels de la santé et aussi de thérapeutes. Donc, de vraiment trouver les bonnes personnes avec qui parler de ce sujet qui est quand même relativement délicat. Et j'ai réfléchi à plein d'angles, de façons d'aborder tout ce qui a rapport aux troubles anxieux, aux troubles paniques, aux enjeux de santé mentale plus globalement. Et c'est ça, après y avoir réfléchi longuement et après avoir essayé quelques avenues, le témoignage plus personnel était l'avenue qui finalement était la plus, probablement la plus pertinente dans le contexte.
C'était justement ma deuxième question. Qu'est-ce qui vous a incité à vous ouvrir autant? Pourquoi cette mise à nu? Parce que vous trouviez que le témoignage était la chose à faire.
Oui, exactement. C'est une très bonne question parce que les troubles anxieux, donc moi j'ai eu ce diagnostic de troubles anxieux généralisés qui s'est finalement transformé en rencontrant la bonne personne, la bonne thérapeute. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut être long et quand même difficile.
Ouais.
Je me suis rendu compte que c'était pas ça, que c'était un trouble de la panique. Donc, cette crainte de toujours faire des crises de panique dans tous les lieux, dans toutes les situations, tous les contextes. Donc, d'aller vraiment au cœur de cette histoire-là, de ce récit-là, pour moi, c'était une façon de donner accès, entre autres, au type de discussion que ça suscite, parce que les discours sur la santé mentale ont quand même changé dans les 10-15 dernières années, mais moi, à la base, à 19 ans, quand j'ai commencé à développer ce trouble, je sentais que c'était très tabou, qu'il y avait beaucoup de honte derrière ce, en tout cas, de ma perspective. C'était pas quelque chose que je criais sur tous les toits, et ça alimentait, en fait, le trouble anxieux, le fait d'être hyper vigilant, s'assurer que les gens autour de moi, mes proches, mes amis, ma famille, mais aussi mes collègues de travail ne se rendent pas compte que souvent je faisais des attaques de panique dans plein de situations. Alors d'essayer de briser un peu le silence autour de ça, ça a été quelque chose de salvateur dans mon cas. Et aussi de donner accès à une thérapie qui s'intéresse aux troubles anxieux, qui s'attaque aux troubles anxieux, on peut le dire ainsi. Pour moi, c'était une clé qui est devenue évidente dans les dernières années et c'était pas c'était pas banal, disons, pour l'Ordre des psychologues du Québec de rentrer dans un cabinet avec une enregistreuse et des micros et diffuser ça sur la plateforme de balado de Radio-Canada. Disons que j'ai dû les convaincre du côté de l'Ordre que c'était éthiquement et déontologiquement une responsable, que c'était un projet qui se tenait, mais j'aurais pas pu faire ça avec d'autres patients pour des raisons de confidentialité, pour des raisons déontologiques justement. Alors je me suis prêté au jeu, je me suis Je veux pas dire que je me suis sacrifié parce que j'y suis allé avec vraiment toute la volonté du monde. C'est presque devenu thérapeutique, mais de donner accès à une thérapie cognitivo-comportementale, parce que on va se le dire, c'est pas accessible, c'est très coûteux. Comme je le disais tout à l'heure, faut trouver la bonne personne avec qui travailler. Donc, il y avait plusieurs enjeux qui finalement m'ont convaincu d'y aller avec le témoignage.
Et Julien, est-ce qu'on guérit des troubles anxieux, des crises de panique?
Non, on ne guérit pas malheureusement, mais on apprend à vivre avec. C'est ce que j'ai découvert et ça a changé ma perspective aussi sur cette condition-là, de me dire toute ma vie, c'est quelque chose que je vais porter avec moi, comme beaucoup de troubles de santé psychologique, mais en ayant les bons outils, en développant les bons mécanismes pour gérer ça, puis même le terme gérer, je le remets en question des fois, mais ouais. Vivre avec, finalement, ouais. C'est la meilleure approche. Puis on a commencé, les épisodes sont pas diffusés encore, mais on en a fait quelques écoutes publiques à la Cinémathèque à Montréal dans les derniers mois, en Outaouais aussi, et dans un festival en France, on a diffusé des extraits de ce balado-là, et déjà les témoignages qu'on a reçus ont... confirmer que c'était peut-être la bonne avenue justement à emprunter, d'y aller dans quelque chose d'aussi personnel en essayant de pas être narcissique non plus. Ça, c'était ma grande crainte, mais ça lance plein de discussions et c'est une façon aussi de recueillir des témoignages de gens qui finalement s'ouvrent et sentent que de mon côté, j'y suis allé d'une certaine vulnérabilité. Ça crée un échange intéressant avec les auditrices et auditeurs également.
Donc, Julien, vous pensez que votre balado peut aider des personnes qui souffrent d'anxiété?
J'aimerais ça. Ce serait peut-être présomptueux de dire que ça peut faire une grande différence, mais j'espère que ça peut aider quelques personnes à réfléchir à certains mécanismes, à aller chercher de l'aide, mais aussi à tout simplement développer l'empathie aussi, parce que les troubles anxieux touchent quand même une grosse proportion de la population québécoise, de la population canadienne. Donc, il y a plein de gens qui doivent qui fréquentent des collègues, des partenaires, des enfants, des parents qui ont ces troubles de santé mentale. Alors, je pense que ça peut donner quelques clés de compréhension à ces gens-là et aussi parce que les troubles anxieux, c'est une grande famille avec plein de déclinaisons. Je pense que ça peut intéresser et ça peut être pertinent dans la vie de certaines personnes. J'ai justement très hâte de découvrir si ça peut... Ça peut donner un petit coup de pouce à des personnes qui cherchent des solutions.
Le balado compte 5 épisodes. Qu'est-ce qu'on y trouve exactement? Vous avez parlé d'experts que vous avez rencontrés. Oui. Il y a des membres de votre famille, des amis qui participent?
Oui, exactement. Des gens qui ont des fois plusieurs fonctions, comme mon père qui est médecin de famille, qui a travaillé avec beaucoup de patientes et de patients en santé mentale, offrait à la fois son regard de père bienveillant, mais aussi de professionnel de la santé. J'ai rencontré des gens qui, de façon des fois anecdotique, me parlaient de leurs troubles anxieux. Ils se sont retrouvés dans le balado avec, j'avais leur accord, bien entendu, mais juste pour m'assurer qu'il y avait un aspect universel ou si je voulais pas rester simplement dans un rayon limité, mais j'ai mis à contribution les gens de mon entourage durant toutes ces années-là qui ont pu témoigner, eux, de leur rapport, soit aux questions de santé mentale, mais aussi à vivre en compagnie de quelqu'un qui a un trouble anxieux comme moi je l'ai. Donc, mes enfants qui aujourd'hui ont 8 et 11 ans participent au balado également. Ils ont grandi dans leur perspective, ils m'ont vu évoluer là-dedans. Donc, ça crée des discussions intergénérationnelles avec mes enfants, mais aussi avec mes parents. Mais le cœur du balado, c'est une thérapie cognitivo-comportementale. Alors, ce que je fais pour m'outiller par rapport aux troubles anxieux, c'est que je fais une thérapie d'exposition. Alors, j'ai amené mon enregistreuse et mes micros avec moi, oui, dans le cabinet de la psychologue qui m'a suivi, mais aussi dans des situations qui me créaient de l'anxiété, comme prendre le train, me retrouver étant donné que j'ai de l'agoraphobie avec mon trouble panique, ben me retrouver en nature des fois, me retrouver dans des stades, dans des buildings en hauteur, c'était des événements qui étaient très difficiles pour moi. Et j'ai décidé de garder mon enregistreuse et d'enregistrer tout ça, évidemment, et de les inclure dans le montage. Donc, la vulnérabilité vient, oui, du témoignage, mais aussi des expériences vécues. Et avec ma perspective, disons, de scénariste et de réalisateur, ça m'a permis de construire un récit avec ça pour que les gens puissent m'accompagner là-dedans, qui est un début, un milieu, une fin, une forme de résolution aussi au 5e épisode. Donc, on se promène pas mal dans le cadre du balado, à la fois dans des réflexions, dans de l'exposition, mais aussi dans un accompagnement thérapeutique. Alors, c'est une forme un peu éclatée, mais qui, pour moi, était la meilleure façon de raconter cette histoire-là qui, j'espère, pourra interpeller les gens qui l'écouteront.
J'en doute pas une seconde, mais de suivre une thérapie tout en créant un balado, est-ce que ça crée de l'anxiété?
Non, au contraire. Pour moi, ça a été une façon ça m'a donné une motivation, étant donné que ma vie se passe beaucoup dans les studios, mais aussi sur le terrain avec des micros. Il n'y avait pas de... Je ne sentais pas une frontière ou un stress, étant donné que j'enregistrais ce qui se passait. C'est un peu mon habitat naturel d'être... entouré de gens avec des écouteurs et des micros. Donc, pour moi, c'était rassurant, surprenamment. C'était des conditions qui étaient favorables et propices à ce que je puisse réfléchir et avancer dans tout ça. Puis ça me donnait une motivation parce que il y a des moments dans le balado où on m'entend en état de crise, en état de crise de panique. J'en ai parlé beaucoup avec Annick Lemay, la comédienne qui vit
aussi de l'anxiété.
Exactement. Donc, on a pu parler de ces éléments-là, même si on ne se connaissait pas avant que je débarque chez elle à Montréal, dans son salon, pour discuter de tout ça. Et ça a créé un lien. C'est ce qui est fou. Il s'est passé quelque chose dans cet échange-là. Et pour moi, en tant qu'être humain, ça me fait croître. Et j'espère que les gens vont pouvoir percevoir cet aspect-là aussi de... Ben, on peut parler entre inconnus ou entre connaissances de nos problèmes d'anxiété. Et ça, j'ai commencé à le faire avec des gens dans mon entourage avec qui j'aurais jamais cru avoir ce type d'échange-là, mais maintenant que ces personnes-là savent que j'ai un trouble anxieux, ben ils vont se sentir plus à l'aise de parler, eux, de leurs enjeux de santé mentale. Et en bout de ligne, c'est tout ce que je veux, c'est que les gens puissent parler de façon...
libre.
Plus libre, exactement, plus libre de leurs démons ou de leurs problèmes de santé psychologique, parce que nous sommes beaucoup à avoir... ces enjeux-là dans notre quotidien.
Oui, plus on en parle, plus on s'en rend compte qu'on n'est pas seul dans cette galère. Il faut arrêter d'avoir honte.
Exactement. C'est mon objectif en bout de ligne. Ce serait vraiment ça, qu'il y ait un petit peu moins de... Ben, qu'il y ait de la déstigmatisation, en fait, ouais. des troubles de santé mentale.
Et c'est dans le cadre du Festival Transistor que vous allez présenter Turbulence. Qu'est-ce que vous avez prévu pour la présentation?
On a invité nos amis de Radio-Canada Audio qui ont fait le balado dans le trouble, donc Geneviève Garon et Martin Girard. Et ça, c'est un balado que peut-être que vos auditeurs et auditeurs ont entendu déjà, qui a été lancé en février sur les troubles alimentaires. Alors, on a décidé de, plutôt que d'axer ça strictement sur le projet qu'on a développé à Transistor, on voulait pas simplement lancer Turbulence, on voulait créer une discussion autour de la médiatisation des troubles de santé mentale et les raisons pour lesquelles on a décidé de faire des balados avec ça, parce que Geneviève Garon, journaliste à Radio-Canada, aurait pu en faire un documentaire télé, aurait pu en faire des reportages, mais elle a décidé d'emprunter la voie du balado. Alors, on va se pencher sur les aspects propices à la création de balados sur des problèmes de santé mentale. Moi, je m'étais inspiré quand même de balados qui ont été faits en Australie, qui ont été faits en France, en Angleterre, aux États-Unis, mais au Québec, il y avait quand même peu de balados documentaires ou de récits plus personnels sur la santé mentale. Alors, ce sera une occasion de réfléchir à tout ça et de voir pourquoi on sent que c'est le médium par excellence pour parler de ces enjeux-là.
Ça va certainement semer des graines et faire des petits, si je peux dire.
J'espère.
Et donc, le lancement de Turbulence, ça va se faire le vendredi 26 avril à 17h au Centre culturel du Vieux-Elmer. Et si on parle du Festival Transistor en général, les festivaliers, festivalières sont invités à se rendre à Gatineau. Du mercredi 24 avril au samedi 27 avril pour célébrer les balados et la création sonore. Alors, Julien, dites-nous la 8e édition, là. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier quand vous regardez la programmation?
Ben, je suis heureux parce qu'on l'a. Le festival a commencé en 2017. On faisait ça dans des plus petites salles, dans des chapiteaux. Et là, on a des partenaires de plus en plus importants, dont la salle Odyssée à Gatineau, qui est une salle de 900 places qui va accueillir les Denis de Relais demain soir, parce que c'est un peu, je dirais que c'est symptomatique de la montée en popularité des balados. On a besoin d'installations de plus en plus importantes pour recevoir les balados qui attirent des publics croissants. Alors, on lance le festival mercredi avec les Denis de Relais. Et cette année, une nouveauté aussi, on propose deux nuits de l'horreur qui sont présentées à guichet fermé avec les balados Captive, Distorsion, Ars Moriendi et notre projet Hanté, notre fiction paranormale qu'on fait devant le public. Et l'engouement a été fou quand on a dévoilé la programmation. Les billets se sont vendus très rapidement, donc des balados qu'on a rassemblés sous le thème du mystère, du true crime, du paranormal, et ça suscite tellement d'engagement, que ce soit du côté du récit, de la fiction, du documentaire, ou même du témoignage. Ces balados-là fédèrent des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'auditrices auditeurs au Québec. Alors, on a décidé de mettre ça à l'honneur cette année. Donc, deux nuits de l'horreur, vendredi et samedi, qui sont présentées à 21h. Et le Centre culturel du Vieux-Elmer a déjà été une prison par le passé, au 19e siècle. Alors, c'est comme un lieu tout désigné pour recevoir les festivalières et festivaliers dans le cadre des nuits de l'horreur. Et bon, évidemment, on a des balados, des spectacles de musique aussi qui célèbrent des projets de balados. Il y a toujours des événements très festifs dans le secteur du Vieux-Elmer en Outaouais. Alors, pour reprendre cet esprit-là du camp de vacances, il y a des gens qui viennent de partout au Québec, de l'Ontario français, de la France également, pour participer au festival, pour prendre part aux festivités. Donc, c'est de célébrer notre amour, notre passion pour la radio et le balado une fois par année. Ça fait vraiment du bien de rencontrer les publics, de rencontrer d'autres gens qui sont des créatrices et créateurs. Et les publics viennent à la rencontre des voix qui leur parlent chaque jour, chaque semaine. Donc, moi, de voir ça, de témoigner de ça pendant 4 ou 5 jours, c'est toujours un grand bonheur.
Et tout cela se passe en présentiel?
Exactement. On enregistre beaucoup des prestations qui sont ensuite rediffusées en balado. Donc, vous pouvez vous abonner à Festival Transistor sur les plateformes de balado de diffusion. Avec quelques semaines de délai, on rend les conférences, les tables rondes, mais aussi les enregistrements disponibles. Donc, les archives des dernières années sont disponibles et on invite les gens à venir en chair et en os dans notre belle région de l'Outaouais pour célébrer le balado.
Et Julien Morissette, vous qui connaissez très bien le balado, comment vous expliquez sa popularité de plus en plus grandissante au Québec, dans le monde entier même?
Je pense que on arrive à un point où, si je pense au Québec, l'offre devient très intéressante pour les gens. Et ça vient pas en compétition avec notre consommation radiophonique ou notre écoute ou notre visionnement des autres plateformes. Il y a cet aspect-là il y a de plus en plus de créatrices et de créateurs qui décident d'aller vers ce médium-là, que ce soit en documentaire, en humour, par rapport au sport aussi, on en voit de plus en plus. Donc, ça devient intéressant d'intégrer ça à sa routine d'écoute et de consommation médiatique. Alors, je pense qu'il y a eu, dans les dernières années, surtout pendant la pandémie, une accélération de la production de balados, ce qui fait en sorte que, avant, on dirait qu'on n'avait pas assez d'offres intéressantes pour que les gens adhèrent totalement. Et il y a cet engagement-là qui est créé, qui est vraiment très, très fort. Les autres créateurs qui viennent au festival en témoignent souvent. Ça crée des communautés et c'est pour cette raison-là que les gens viennent dans les salles, achètent des billets dans les réseaux de diffusion au Québec. On en voit de plus en plus des couples ouverts, des sexes orales, des Mike White sous écoute qui remplissent des arénas complets. Il y a quelque chose là dans la proximité, dans la parole, dans la célébration de notre culture, de notre souveraineté culturelle finalement, qui je crois est vraiment, vraiment pertinente à exploiter honnêtement. Puis ça, on voit cette évolution-là depuis les débuts du festival, depuis que Québecor a lancé Cube Radio, que Radio-Canada a lancé Audio. Il y a une croissance qui est fulgurante, des écoutes qui sont en augmentation. Alors moi, je peux que m'en réjouir parce que je suis un grand amoureux de la radio sous toutes ses formes, que ce soit hertzienne, numérique ou expérimentale.
Le son. J'ai lu, Julien, que vous aviez étudié en réalisation de cinéma à l'Université de Montréal. Oui. Je me demandais si ces études-là vous ont nourri, parce que là, vous êtes passé de l'image au son.
Totalement. Et quand je faisais mon bac en cinéma, donc au début des années 2010, je savais pas que c'était possible de faire du cinéma pour les oreilles. Ça a repris par hasard l'écoute de certains projets à la radio CBC. Après ça, Serial est arrivé en 2014, qui a complètement changé la donne dans le milieu du balado. Et je me suis rendu compte que c'était possible, moi, étant un musicien, un amoureux du son, de raconter des histoires, de créer des images, mais avec le son simplement. C'est Orson Welles qui disait qu'il aimait ça faire de la radio parce que l'écran était beaucoup plus grand qu'à la télévision, en disant que l'écran n'avait aucune limite, que le hors-champ est infini finalement avec la radio. Donc s'il y avait eu un baccalauréat, soit en scénarisation, en réalisation de balado, je me serais dirigé vers ça à l'époque. Là, tranquillement, pas vite, on voit qu'il y a une offre de formation qui se bonifie. En français, c'est encore un défi, mais au collégial, les offres de cours en balado augmentent. Dans les universités, il y a de plus en plus d'intérêt pour créer des programmes de la sorte. On était dans une ville française qui a un festival un peu plus tôt cette année, et il y a des cours d'ingénierie sonore à l'université, de documentaire sonore. Il y en a aux États-Unis également. Donc, je pense que tranquillement, pas vite, cette offre-là va se concrétiser. L'Institut national de l'image et du son aussi donne de plus en plus de formations en balado. Alors, ce sont d'autres preuves que c'est un médium qui gagne en popularité et vraiment une forme que les gens s'approprient, qu'ils soient issus du milieu de la littérature, des arts visuels, du théâtre, du cinéma. Il y a quelque chose dans la façon de raconter des histoires avec le son qui se distingue totalement de ce qui se fait au cinéma. Et moi, j'étais très heureux après ça de pouvoir manier des micros et des instruments de musique plutôt que des caméras, des lentilles et de la pellicule.
Julien Morissette, c'est toujours un grand plaisir d'échanger avec vous, de vous écouter. Vous êtes vraiment passionné et passionnant. Et j'invite les gens à découvrir Turbulence, traverser les troubles anxieux à partir de demain sur Radio-Canada Audio. Et donc, ce balado sera lancé dans le cadre du Festival Transistor qui, lui, prend son envol le 24 avril. Merci, Julien. Puis, bonne continuation. Au plaisir de vous reparler.
Merci. Toujours un plaisir de vous parler, Hélène. À bientôt.
À bientôt.